France Culture.
نقاط المطرح تعلن عن نزاحة الستار ليلة حب بكلمات الأستاذ أحمد شفيق كامل تلحين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
Elle est vraiment partout et oui, partout et nulle part, quoi.
Edith Yette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajot.
Ce petit spectacle de marionnettes qui est vraiment hallucinant, puisque tu rentres, bon, déjà en Égypte c'est super parce que quand tu vas au théâtre, ils t'offrent toujours quelque chose, tu repars toujours avec quelque chose, donc des fleurs, etc. Donc là tu rentres dans la salle et on t'offre déjà des fleurs, et là donc à ce spectacle, mais qui est vraiment pas grand chose puisque c'est un simple spectacle de marionnettes à fil, où il y a Oum Kalsoum, alors avec vraiment ancestrale, c'est-à-dire dans la même robe dans laquelle tu vois une toute petite marionnette comme ça, avec tout son orchestre derrière elle, et le spectacle se passe surtout dans la salle, en fait, puisque dans la salle tu as toutes les grand-mères qui amènent leurs petits-enfants et qui chantent. En fait, donc c'est les enregistrements en direct des chansons d'Oum Kalsoum qui sont qu'on entend, mis dans un lecteur CD, et la petite marionnette qui bouge un petit peu comme ça, qui monte son mouchoir, descend son mouchoir, et toutes les femmes, toutes les grand-mères qui pleurent en chantant, en serrant très très fortement en fait leurs petits-enfants entre leurs,
surtout les garçons.
Avec leurs fleurs qu'elles jettent aussi, sur la scène.
C'est l'endroit où on a croisé Oum Kalsoum, sans faire les mystiques, mais c'est vraiment l'endroit où l'évocation a été la plus forte.
Pendant la révolution égyptienne, dans les mouvements d'artistes, ils ont repris Oum Kalsoum.
Isabelle Sayabodis.
Donc, c'est vivant, quoi. Elle s'adapte, comme elle a été très adaptable, elle continue de s'adapter. Et donc, les révolutionnaires reprennent son effigie parce que on pense qu'elle aurait été des leurs.
Et elle était aussi un modèle chez les homosexuels, dans la communauté homosexuelle. C'était l'équivalent de Dalida, quoi. Voilà, donc on se costume en Oum Kalsoum. Enfin, il y avait vraiment, chez les fondamentalistes religieux aussi, d'un autre côté, parce que c'est la fierté du nationalisme, c'est une forme de fierté d'être égyptien, un modèle. Donc finalement, ce qui est fou, et finalement c'est peut-être la définition d'un mythe, c'est ce qui rassemble énormément de gens qui se mettent d'accord. D'ailleurs, il y a une anecdote, on dit que les Arabes sont toujours en désaccord, sauf sur Oum Kalsoum. Voilà, c'est ce qui les met d'accord.
Frédéric Lagrange.
Les Marocains prononceront plus volontiers Oum Kalsoum. Les Algériens, selon la région, seront Oum Kalsoum, Oum Kalsoum. Les Tunisiens prononcent l'interdental, donc ce sera Oum Kalsoum. Les Égyptiens prononceront Oum Kalsoum ou Kulsoum. Les Libanais, comme les Égyptiens, les Irakiens reviendront à l'interdental et donc auront Oum Kalsoum.
Elle a eu une vie très longue. Donc ce qui est d'intéressant, c'est que c'est le XXe siècle où il y a tellement d'événements qui vont se passer en Égypte, mais aussi dans la musique, mais aussi dans les technologies, et qu'elle couvre tous ces événements. Donc si vous voulez, on peut raconter l'histoire de l'Égypte par Oum Kalsoum, l'histoire de la musique par Oum Kalsoum, l'histoire du cinéma par Oum Kalsoum, l'histoire de la radio avec elle. Donc si vous voulez, elle est tombée au bon endroit, au bon moment aussi, quoi. Alors est-ce que c'est la star ou la chance ? Mais si vous voulez, il y a ce facteur qui fait qu'elle est complètement imbriquée à la vie, à toute la vie de ce XXe siècle qui a été passionnant en Égypte.
Alaa El Aswany.
C'est arrivé surtout avec Oum Kalsoum et Nagui Mahfouz, hein, en Égypte. Ça devient presque impoli de ne pas aimer Oum Kalsoum, vous voyez. C'est quelque chose qui n'est pas démocratique du tout. Mais ça me plaît, cette idée, vous voyez. C'est presque une pyramide. Hein, c'est presque une pyramide.
Le jour de son enterrement, après le recueillement des proches, il y a quelque chose de phénoménal, c'est que la foule, on compare à l'enterrement de Nasser. On dit qu'il y avait 1 million de personnes. et elle, donc on est en 1975, et ce sont ses amoureux, ces fous d'elle, qui ont pris le cercueil et qui l'ont porté. Donc, les images sont incroyables, parce que c'est un cercueil, on dirait un cercueil qui, sur une mer humaine. C'est plus un cercueil, c'est quelque chose encore en vie, quoi, qui est mouvant, et donc on l'amène à sa dernière demeure dans la ville des morts au Caire.
Et une autre chose aussi, c'est que le mythe amène les légendes, quoi. Ça, c'était vachement intéressant de voir tous les bruits qui ont couru autour d'Oum Kalsoum. Les bruits les plus... Oui, on disait qu'elle était avare. Est-ce que c'est vrai? On dit qu'elle aime les femmes, qu'elle aurait été lesbienne. Alors voilà, avec tout ce que ça comporte, puisque sa vie amoureuse, elle est assez étonnante. On dit aussi qu'elle a si bien décrit la peine d'amour parce qu'elle a été plaquée à l'âge de 20 ans. Voilà, et que toute sa vie, elle a couru derrière son amour. Ou pourquoi on lui a si bien écrit des chansons d'amour? Parce qu'elle séduisait les auteurs ou les poètes, et puis elle leur faisait croire que pour les tenir. Enfin voilà, il y a mille et une histoires. Par exemple, on disait que dans son mouchoir blanc, il y avait de la cocaïne, c'est ce qui lui permettait de tenir les concerts. On dit qu'elle avait des lunettes, parce que quand elle chantait, elle chantait tellement que ses yeux sortaient de ses orbites du fait de la puissance de la voix. Mais les gens qui vous disent ça, ils sont hyper sérieux. Enfin, c'est ça qui est hyper beau aussi dans le mythe, c'est-à-dire qu'ils y croient.
C'est la mère. Donc, Oum Kalsoum, c'est un prénom d'une des filles du prophète. Et l'histoire ou la légende veut que son père, le soir de sa naissance, serait tombé sur le prénom de cette fille du prophète, il lui redonnait. Donc, elle a commencé petite fille, puisqu'elle a chanté toute petite fille, par le rossignol du Delta, puisqu'elle est née dans le Delta du Nil. Après, on l'a appelée mademoiselle par respect. Après, on l'a appelée madame encore par respect. Après, on l'a appelée la voix des Arabes quand elle a inauguré la radio qui avait presque son nom et qu'elle a beaucoup animée. Après, on l'a appelée la quatrième pyramide, qui a été presque son dernier surnom, la bombe de Nasser, parce que là, ça fait partie un peu de son autre registre, elle, femme politique. Ah, la dame aussi, la dame, elle sait.
De toute façon, la voix d'Oum Kalsoum est un donné. C'est une voix avec un timbre magnifique, point. Des capacités vocales tout à fait remarquables, sans être mythiques. Hein. Encore une fois, ne mythifions pas. Elle a une tessiture large, elle a une voix extrêmement puissante, oui. Mais ce sont des données qui ne sont pas surhumaines. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouvera chez quantité d'autres chanteurs, y compris dans cette culture musicale. Mais des voix avec des timbres magnifiques, il y en a d'autres. Je crois que ce qui fait la spécificité d'Oum Kalsoum, c'est une intelligence musicale. C'est une voix en plus en évolution. Il y a peu de rapports finalement entre la voix d'Oum Kalsoum Kalsoum années 30 et la voix d'Oum Kalsoum à la fin de carrière années 70, où nous sommes devant une voix qui est presque hermaphrodite en années 70. C'est une voix dont on ne sait plus si c'est une voix féminine ou une voix masculine finalement. Mais elle garde un métier extraordinaire, elle garde une souplesse tout à fait remarquable et une capacité à l'émotion qui s'est construite sur des décennies. Ce qui fait le petit plus, c'est une intelligence artistique. C'est une double intelligence. C'est une intelligence sociale et carriériste qui fait que Oum Kalsoum sait se construire en tant que personnage Oum Kalsoum, image de la nation, d'une part. C'est le fait de représenter l'Égypte, voire représenter une certaine aspiration arabe à la modernité, tout en gardant le lien avec la tradition. Bon, Oum Kalsoum en tant que personnage social. Mais il y a également une intelligence là, fondamentalement artistique qui est de savoir accompagner, voire de précéder les modes, l'évolution de la musique, et puis dans la performance même, dans le concert, il y a tout de même cette intelligence consistant à savoir exactement d'avance ce qui est susceptible de plaire, de provoquer le tarab chez le public.
Mahfouz, Naguib Mahfouz, disait « Le tarab, c'est elle ».
Il y a une vision exotique du tarab qui garde le tarab comme quelque chose arabe, comme si les Arabes étaient vraiment des créatures qui sont très différentes des Occidentaux. Non, le tarab, ça veut dire... Même en arabe, le tarab, c'est le maximum du plaisir que vous pouvez sentir selon la musique.
Elle a une chose très forte aussi, c'est que elle rentre, donc il y a une acclamation qui dure à peu près 3 minutes, et puis elle prend ensuite 10 minutes avant de commencer à chanter. Et elle crée donc une espèce de suspense, et surtout, on lui disait, mais pourquoi vous chantez pas tout de suite? Et elle dit, elle se charge. En fait, elle regarde un peu son peuple qui est venu communier avec elle, parce qu'il y a un côté très cérémonial dans les concerts d'Oum Kalsoum. On est assez proche d'une forme de rite païen, enfin voilà, d'espèce de communion entre les gens, et elle se charge du public qui est là, quoi. Elle les regarde et elle a une dans sa manière de chanter. Et pourtant, elle est plantée. Enfin, il y a ces musiciens derrière elle. Il n'y a pas du tout de spectaculaire, mais dans sa façon de chanter, de rentrer dans les phrases, d'improviser, de boxer la musique, parce qu'elle a un côté très masculin dans sa façon de se mouvoir avec le haut de son corps. Elle a une façon de vampiriser le public, de les dresser. En plus, son public est... Il y a beaucoup d'hommes, donc il y a une façon de les captiver, d'aller les chercher, enfin, qui est très très impressionnant, quoi.
Pour l'instant, la variation est simplement est-ce où placer la respiration, faire un pont entre deux parties de la phrase musicale ou pas. On commence à varier un peu plus au niveau ornemental. Elle n'a pour l'instant pas proposé de réelles variations. Elle a simplement changé l'ornementation. Le public en est quand même au mois de mars. Cela fait une fois, deux fois, trois fois. C'est la quatrième interprétation de la chanson. Il attend autre chose. une tension est en train de se construire alors que l'orchestre reprend l'intro instrumentale. Va-t-elle ou pas répondre à la tension ? Et re-un tour. Elle aurait pu, la voix aurait pu commencer ici. Non, probablement un petit signe extrêmement discret qui veut dire refaites le tour. Toujours la même tension. Ce n'est donc pas encore pour maintenant. Elle a laissé son public suspendu. Elle construit l'attente. Elle construit une espèce de soif qui dit « Mais quand est-ce qu'elle va sortir ? Quand va-t-elle déraper ?» Elle se contente encore une fois. Petits applaudissements dans le public, la tension est en train de devenir de plus en plus forte. Elle risque de continuer, auquel cas elle déçoit, mais c'est une Kalsoum, elle a tous les droits. Encore un trop supplémentaire, on repart pour la troisième fois dans la phrase 1. C'est plutôt bon signe, ce « ah » pendant la phrase musicale, dans les graves, annonce-t-il une idée de passage au grave ? C'est pas. Phrase totalement différente. Réaction immédiate du public a compris que c'est bon, il a gagné. Et l'orchestre se retrouve en formation ancienne de Tartes. Cette fois-ci, ce sont les solistes. Cette phrase est totalement improvisée. C'est une sorte de glose autour de la phrase composée. Et des Allah fussent de la part du public. L'orchestre tout entier ne peut pas suivre puisqu'il ne connaît pas. Nous sommes en dehors des sentiers battus. Donc, uniquement le premier violon est là, le joueur de Qanoun, et bien entendu, les percussions. Parfaite synchronisation avec le joueur de Qanoun qui lui décide de faire un ostinato en ce moment-là. Il n'y a aucune raison particulière. C'est lui qui, au bout de 40 ans de travail avec Oum Kalsoum, décide que lui aussi peut improviser et lui aussi peut l'aider à aller plus loin. Et on repart à l'air normal. Nous sommes revenus à l'air normal. La promenade est terminée. Elle va pouvoir achever le couplet.
Mais il y a aussi une intelligence de s'entourer des meilleurs. Voilà, mais c'est ça aussi, je pense, les génies. C'est l'intelligence des fois un peu perverse, de prendre deux poètes et puis de les monter l'un à l'autre en disant c'est lequel qui va me sortir le meilleur texte, quoi.
Ahmad Rami, alors là, c'est une très belle histoire d'amour. Puisqu'ils se sont rencontrés, ils se sont certainement beaucoup aimés. Et c'est une histoire où chacun donnait à l'autre, mais où elle menait le jeu. Donc elle menait le jeu en le tyrannisant, mais en le tyrannisant pour le faire écrire des mots d'amour qui pleurent, quoi. Donc elle lui donnait des rendez-vous, elle le brusquait. C'était un peu tyrannique avec lui et avec Kassabni aussi, avec son poète attitré, son musicien. Elle leur donnait un jour, elle les faisait travailler. elle prenait elle prenait tout d'eux, quoi. Donc c'était un peu tyrannique. Mais lui a fait le plus beau poème, les plus beaux poèmes d'amour pour elle. Et même après sa mort, il continuait de lui écrire. Donc il était encore, il voulait encore la retrouver.
Tes yeux m'ont ramené à mes jours révolus et m'ont appris à regretter le passé et ses blessures. C'est toi, ma vie, toujours étincelante de l'éclat de ta lumière. Ce que j'ai vu avant de te connaître est entièrement perdu. Comment ose-t-on le compter dans ma vie? Que de jours j'ai vécu sans toi, mon bien-aimé, que de peines j'ai endurées.
Ça, par exemple, voilà, c'est-à-dire que elle est amoureuse de quelqu'un, mais au lieu de raconter cet amour, elle va dire « Avant, c'était horrible parce que je ne te connaissais pas et maintenant, je vis dans la peur de te perdre. » Donc, on est vraiment dans... c'est pas le moment de bonheur, c'est... Voilà, c'est soit la... je vis quelque chose de positif, mais je suis déjà dans... À un moment, ça va s'arrêter parce que pour X raisons, ça va être horrible. Et puis, avant, je te connaissais pas, donc c'était horrible. Il y a une forme de perversion. Elle travaille, en tout cas... Dans les chansons sur cette mélancolie, quoi.
Vous savez, en Égypte, normalement, il y a l'art de la blague. Donc, elle a dit « J'épouse mon médecin ». Donc, c'était une façon de résumer la chose, quoi. Elle a dit « Je lui ai montré ma face, il m'a fait des piqûres, donc je peux me marier avec lui ». Voilà. Donc,
Elle
s'est mariée avec lui. Elle s'est mariée avec son médecin traitant. Alors, on lui a prêté, évidemment, 10 amants. Ou d'autres aventures, mais elle l'a épousé à un âge tardif. À quoi c'était dû? Je sais pas.
Bon, la chose la plus intrigante, finalement, c'est pas du tout la vie privée d'Oum Kalsoum, c'est la contradiction entre un personnage chantant qui est tout de sexualité et un personnage privé qui n'en a pas, ou du moins qui ne l'exposera jamais. Mais Oum Kalsoum privée, on ne sait rien d'elle, mais le personnage Oum Kalsoum qui monte sur scène est tout de sexualité, finalement. Par son timbre, par sa voix, par son texte, par l'émotion, par le manque. Ces chansons sont toutes des chansons du manque.
Les chansons d'Oum Kalsoum, c'est toujours amour humain, amour divin. Donc si vous voulez, c'est presque des chansons prières, quoi. On loue l'amour et on ne sait pas très bien si c'est au masculin, si c'est au féminin, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est Dieu. Et donc, si vous voulez, tout ça n'a, le temps n'a plus d'importance, quoi. On recommence, on psalmodie, on relance. Et si vous voulez, c'est des incantations, quoi. Donc, quand elle chante Rayam, mais Rayam, c'est ça, quoi. Quand elle chante Les Mille et Une Nuits, c'est ça, quoi. C'est l'amour qui est plus fort que l'amour humain. Donc, il n'y a pas de souci pour elle.
Bonjour, grande et merveilleuse dame. J'espère que tu vas rassurer tes milliers d'admirateurs sur ta santé. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé, tout va bien.
Oum Kalsoum, au micro de Radio Le Caire, début des années 70.
Tes convictions religieuses sont très fortes, tes chansons religieuses Nahj al-Borda, Al-Hamziya. J'ai eu une éducation religieuse, mon père lisait le Coran. Il était l'imam de la mosquée. Et j'ai appris le Coran à l'école coranique. Sans aucun doute, tout cela a influencé mon art. Tout chanteur doit apprendre le Coran. Ce grand livre qui apprend à bien prononcer, à articuler les mots clairement. Peux-tu nous faire entendre la sourate d'El Kursi? C'est pour l'apprendre à qui? Tout le monde la connaît. Peux-tu tout de même lire le Coran, même sans le psalmodier?
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Dans les belles histoires qui constituent sa vie, c'est qu'elle est fille d'imam, donc fille de, d'officier du culte, famille pauvre, paysanne dans le delta du Nil. Et donc son père psalmodie le Coran. Elle est fille, donc normalement, elle ne psalmodie pas le Coran. Et elle a un frère aîné. Mais elle, première chance de sa vie, c'est sa mère. Donc ce qu'elle doit à sa mère certainement, c'est que sa mère se rend compte qu'elle a une voix magnifique et la pousse à chanter et à étudier. Donc elle va à l'école coranique et grâce à la persuasion de sa mère, toujours au début du siècle dernier, sa mère se bat pour qu'elle aille avoir une instruction religieuse, mais une instruction fondamentalement structurante. Et puis pour ces gens pieux, musulmans, pauvres, leur façon dont ils vont réagir pour la laisser se produire en public, alors habillé en garçon, mais peu importe quoi, habillé en garçon, c'est-à-dire habillé voilé quoi, en bédouine, mais elle chante devant des assistances. Donc on peut imaginer combien ces gens sont pieux, évidemment, mais aussi ouverts, puisqu'ils acceptent ça. Et plus encore, ils acceptent qu'elle chante, qu'elle se produise en public, et après, ils acceptent qu'elle parte au Caire, parce qu'ils se rendent compte qu'elle a un potentiel fou, et qu'on doit pouvoir l'aider à faire fructifier ce don.
Kalsoum montre que l'on peut être une femme chantant un répertoire profane sans être pour autant accusée de mœurs dissolues. Donc elle est le visage de la respectabilité des professions musicales et donc de ce projet national dans lequel on dit mais nous sommes comme les Européens, notre art musical est un art de personnes respectables et on peut être une intellectuelle, c'est également, intellectuelle, c'est une femme qui est tout à fait éduquée, elle parle arabe français, elle lit le français, elle illustre le fait qu'une paysanne, ou plutôt une fille de paysan du Delta, élevée au chant religieux, peut devenir une bourgeoise kérote prenant l'avion, étant évidemment dévoilée et pouvant finalement obtenir quasi grade d'ambassadeur. Elle a d'ailleurs, je crois, un passeport diplomatique. Elle est diplomate de son pays, représentante d'une évolution des femmes.
Elle a quand même beaucoup essayé de pousser les gens, en particulier les femmes, à s'instruire, à prendre part à la vie de leur pays. Elle a eu un rôle très important de ce côté-là, à enlever le voile. C'était une époque qui paraît très loin aujourd'hui, mais où les femmes disaient on est libre, on jette notre voile, ce qu'elle a dit elle-même, quoi. On peut être pieuse, on peut être pudique et être tête nue. Ça faisait partie du langage de cette époque et elle adhérait complètement à ça, tout en disant si on se sert de cette partie inactive des femmes, on deviendrait tellement plus fort. Donc elle poussait ces femmes et en plus elle avait une telle volonté Et elle s'était tellement hissée, elle, d'une petite paysanne à une grande vedette, ce qu'elle a dit à plusieurs reprises. Elle leur a dit « Vous êtes la moitié de l'humanité, la belle moitié de l'humanité. Vous êtes libre, vous pouvez marcher tête nue, tête haute. Donc, elle ne voyait pas le problème. Mais comme personne ne le voyait à ce moment-là. »
وكنت بتكلم عن تداول سلمي للسلطة وعن ديمقراطية ما كانش في ذهني ثورة بس يعني أقدر أقول بكل فخر إني وقفت مع الثورة وقدمت كل اللي ممكن أقدر أقدمه.
Quand on faisait une enquête sur Oum Kalsoum, les gens ils nous parlaient évidemment d'Oum Kalsoum, mais ils parlaient d'aujourd'hui.
يلا عايزين ننزل معاهم.
Une vieille femme dont le mari était dans l'armée et qui a connu Oum Kalsoum. C'est-à-dire qu'on arrive et première question, alors Oum Kalsoum, est-ce que vous pouvez nous... Elle se met à pleurer. Alors voilà, une espèce d'émotion comme ça qui la submerge. Et puis je pense que ça a duré une heure, elle a dû dire deux mots, hein, elle n'a pas arrêté de pleurer en disant c'était mieux avant. On sentait bien que Moubarak, ou en tout cas le gouvernement de l'époque, ne voulait pas fêter les anniversaires de sa mort, etc. Oum Kalsoum était vu comme quelque chose de dangereux et de subversif.
Oum Kalsoum, c'est un projet idéologique, c'est un projet social, c'est une construction de soi et c'est une chanteuse, c'est une icône nationale, c'est tout, effectivement. Je crois que c'est sans doute un cas assez extraordinaire dans l'histoire du monde d'avoir quelqu'un qui, dans l'histoire des arts, d'avoir un personnage qui concentre autant de facettes.
Elle est reine, quoi. Elle est reine, elle est responsable, elle est femme d'affaires, quoi. Femme d'un groupe, d'entreprise. Donc elle manage, et elle manage des hommes en plus. Donc c'est une femme qui a du pouvoir. Donc elle commande, elle refait faire, elle s'énerve. Mais ce qu'on peut lui reprocher, et ce qu'on reproche souvent aux femmes de pouvoir, quoi aussi. Est-ce qu'on peut être femme dans le monde arabe au début du siècle en Égypte sans avoir du caractère ou de l'autorité? Je sais pas, je pense pas.
Gamal Abdel Nasser, 26 juillet 1956, nationalisation du canal de Suez.
Nasser, c'est le premier président égyptien d'Égypte. Donc elle faisait partie de tous ces mouvements qui voulaient rétablir un pouvoir égyptien à la tête du pays. Donc elle a complètement milité et ils se sont beaucoup aidés l'un et l'autre, quoi. Donc lui sentait le pouvoir de fascination qu'avait cette femme, il s'en est servi. Comment? Elle chantait. Ils allaient dans la même direction, donc il se servait d'elle, elle le chantait, elle l'appuyait, elle le poussait, elle chantait pour la nationalisation de Suez, elle chantait l'hymne national, elle chantait la guerre, elle chantait pour l'effort de guerre avec la guerre avec Israël, donc elle était acteur politique. Ils allaient exactement dans la même direction. Non, elle mettait son art, si vous voulez, au service d'une cause qu'elle croyait juste et qui voulait mettre la nation arabe, l'Égypte en premier plan. Et l'art, et l'art.
Après le 5 juin 1967, tu as fait une tournée dans le monde arabe. Et après, je suis allée à Paris. Est-ce que c'était dû, cette tournée, à un sentiment national? Après la défaite, je ne pouvais plus me contenir. J'ai travaillé ici à Alexandrie, à Mansoura, Damanhour, Tanta. J'ai voulu sortir de cette calamité. Quand j'ai pensé venir à Paris, tous mes amis étaient contre. Ils avaient peur pour moi. Mais moi, je n'ai pas eu un moment d'hésitation et je suis partie à Paris. Les deux soirées à Paris ont été réussies grâce à Dieu. En fait, c'était avec un but noble. Les gens disaient, les Arabes viennent donc et c'est un choc terrible. Et malgré ça, ils sont debout et ils chantent. C'est le caractère de l'homme arabe. Ils passent par des crises, mais sa foi en Dieu lui permet de les surmonter.
Allô? سيدة أم كلثوم ستوجه إليكم كلمة تحية.
أيها السادة والسيدات، لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شكري لكم على مقابلتكم لفننا العربي، فشكراً.
Madame Oum Kalsoum ne trouve pas des mots pour vous remercier. Ceci dit, ces soirées restent inoubliables également pour elle.
Suite à la guerre, Oum Kalsoum va participer à l'effort national pour ramener des fonds pour un État ruiné, pour une armée défaite et un pays qui n'était pas du tout psychologiquement préparé à la défaite, pas plus que le monde arabe. Donc elle engage une tournée à l'étranger et la tournée va commencer par Paris qui sera en fait le seul pays occidental dans lequel elle donnera un concert puisqu'elle est supposée toujours dans le cadre de cet effort de guerre faire un concert à Moscou en 1970. Le concert est annulé parce que justement le soir du concert et le jour où elle apprend la mort de Nasser, elle rentre au Caire et ne chantera, il n'y aura jamais de concert à Moscou.
Si vous vouliez assister ce soir ou mercredi soir au spectacle de l'Olympia, il vous en aurait coûté de 60 à 250 francs nouveaux. Il n'y a plus de place, le moindre strapontin est loué, mais pourtant rassurez-vous, il vous reste une chance. On trouve encore au marché noir un fauteuil pour 500 francs. Que se passe-t-il donc? Une vedette que vous ne connaissez pas encore fait ses débuts en Europe. Son cachet pour une soirée s'élève à 10 millions d'anciens francs. On évalue sa fortune à plus d'un milliard. Il s'agit d'Oum Kalsoum.
Cocatrix, quand on entend il en parle comme étant 10 fois plus fort que Johnny Hallyday, puisque ça a été un moment où personne n'y croyait, elle est arrivée à l'aéroport et là, et qu'en l'espace de 3-4 jours, il y a tous les immigrés arabes d'Europe qui sont arrivés au boulevard des Italiens pour essayer d'avoir une place, et que ça a été un moment où la France s'est aperçue qu'il y avait une immigration, qu'il y avait... qui n'étaient pas juste des éboueurs et qui étaient venus construire la France des années 70, mais qui avaient aussi un monde artistique, voilà, il y a eu un effet très très fort, et cette fameuse queue qui part donc de l'Olympia et qui va jusqu'au Grand Rex, enfin ça paraît, quand on connaît le boulevard, ça paraît fou, et ça a été un concert pour les déracinés, pour les gens qui étaient ici, enfin c'était une part d'Égypte ou en tout cas de monde arabe qui revenait, enfin bon, concert complètement fou.
Ces concerts de Paris ne sont pas les meilleurs. Ce sont des concerts dans lesquels on sent la dépression, on sent la fatigue, et dans lesquels il n'y a quasiment aucune tentative d'improvisation. Les chansons sont interprétées telles qu'elles sont. Bruno Cocatrix, qui ne savait pas ce que voulait dire une chanson calsoumienne, a imposé trois chansons au lieu de deux, ce qui veut dire qu'effectivement, elle terminera très très tard dans la nuit et épuisée, alors que c'était le moment où justement elle voulait imposer le passage à deux chansons au lieu de trois. Mais lors de ces deux soirées, chacune des deux soirées, elle interprétera la chanson « Les ruines », probablement parce que avec l'intelligence aiguë qui la caractérise, elle sent bien que ce qui était une chanson d'amour un an plus tôt ou six mois plus tôt lorsqu'elle l'a créée prend des significations politiques. À partir du moment où on dit « donne-moi ma liberté, dénoue mes mains, j'ai tout donné, n'ai rien gagné pour moi, mais pour un saigne encore à cause des menottes que tu m'as fait porter », le public comprend parfaitement qu'il y a désormais une valeur allégorique à cette chanson d'amour.
أين مني مجلس أنت به فتنة تمت سنة وسنة
Mon cœur ne me demande pas où est l'amour. C'était un rêve vite dissipé. Serre-moi à boire et trinquons sur ces ruines. Et raconte pendant que coulent mes larmes comment cet amour, désormais révolu, était devenu une histoire exemplaire. Je ne t'oublierai pas. Tu m'as ensorcelé. Avec une bouche aux douces et tendres paroles, avec une main qui se tend vers moi, pareille à celle qui, parmi les flots, vient au secours d'un noyé, avec un regard qui donne soif à celui qui le voit. Mais où est-il donc cet éclat ? Ô bien-aimé, dont j'ai visité un jour la demeure cachée, tel un oiseau exalté, je chantais ma douleur. Que celui qui châtie et récompense t'accorde sa clémence, et que le juge suprême t'accorde ses bienfaits. La passion que j'ai pour toi me consume, et ton retard est une braise dans mon sang. Donne-moi ma liberté, dénoue mes mains. J'ai tout donné et n'ai rien gardé pour moi. Mes poings saignent encore à cause des menottes que tu m'as fait porter. Pourquoi les garderais-je alors que tu m'as tout enlevé ? Pourquoi tiendrais-je des promesses que tu n'as su protéger ? Pourquoi resterais-je captive alors que le monde est à moi ? Où est-il, mon bien-aimé enchanteur, paré de grandeur, de dignité et de décence ? Confiant, il avance tel un roi, empreint d'une beauté criminelle et de majesté, d'un charme enivrant pareil au senteur des collines, songeur comme les rêves du soir.
Je me souviens jamais que j'ai écrit un seul mot sans avoir la voix de Mokelsoum à côté de moi. Alors, je ne peux pas écrire sans ou bien écouter Oum Kalsoum ou bien écouter Edith Piaf. Et je vois ça vraiment significatif. Significatif parce que j'ai cette double culture française-arabe et aussi parce que il y a pas mal de choses en commun entre ces deux chanteuses. Même le commencement très dur, elle était très pauvre, Oum Kalsoum, et elle restait toujours engagée pour le peuple.
Je dirais en quelque sorte, c'est une boutade que Oum Kalsoum, c'est la Calas qui décide de devenir Edith Piaf. Mais ce n'est pas une décision consciente et ce n'est pas une décision qui lui appartient à elle seule. Fondamentalement, c'est lié au fait que dans le cadre égyptien, la dichotomie ne se fera pas comme en Europe entre une musique de variété et de qualité et la musique savante. Oum Kalsoum est formée à la musique savante, citadine. C'est sa formation et c'est la nature de ses premiers enregistrements. Pour quantité de raisons sociales et entre autres idéologiques, le fait que la consommation de la musique savante égyptienne soit liée aux élites ottomanisantes, du fait d'un projet national de conciliation entre modernité et tradition, Oum Kalsoum, comme l'ensemble des musiciens égyptiens de sa génération, s'embarquera dans une entreprise de mise de la musique savante au niveau, ou plutôt à la disposition du plus grand nombre, d'une part, et de volonté de modernisation et de présentation d'un art musical qui, de leur point de vue intérieur, puisse rivaliser avec la musique occidentale. Ce qui va de pair avec un étoffement de l'orchestre, en perdant de vue que à partir du moment où il y a étoffement de l'orchestre, cela veut dire que, puisque nous sommes dans une musique monodique modale, cela veut dire que l'orchestre va jouer à l'unisson. Et que tout ce qui faisait l'intérêt de la musique savante, à savoir les phénomènes d'hétérophonie dans le petit ensemble, vont nécessairement disparaître à partir du moment où on a un grand orchestre oriental.
Le musicien Mohamed Abdelwahab. En 1964, il collabore pour la première fois avec Oum Kalsoum sur le morceau Enta Umri.
Je lui ai fait écouter la chanson, elle lui a plu, et je lui ai dit, l'exécution doit suivre l'évolution du temps. Je vais introduire dans l'orchestre une guitare électrique. Elle a dit, ah non. J'ai dit, attends. Elle a répondu, bon, fais-moi écouter. Alors j'ai demandé à Abd El Fattah, le guitariste, de jouer. Oum Kalsoum prenait la tête dans ses mains, elle réfléchissait. Elle disait, recommence. Et elle m'a dit, c'est beau, mais pour que je sois convaincu, il faut que je l'écoute avec aussi un luth. On a fait une réunion à la maison, j'ai demandé au professeur Mohamed Al-Khasabji, apporte le luth que tu auras sur scène. Et Abd El Fattah, viens avec ta guitare.
Abd El Fattah avec la guitare, et Abd El Khasabji avec le luth, c'est un grand écart.
Ils ont joué une, deux, trois, quatre fois, puis il m'a dit, ça suffit, je suis d'accord.
Elle
m'a même dit en français, je te donne carte blanche.
N'a pas vraiment de réelle horreur, sinon peut-être le solo de guitare électrique au début, quoi, qui effectivement est assez inutile. Mais il est assez inutile parce qu'il est là aussi pour dire, c'est signifiant, c'est sursignifiant, c'est nous sommes modernes. Et je modernise notre plus grande chanteuse. C'est un discours plus idéologique que musical finalement.
سيداتي وسادتي مضى بنا الوقت ونحن معكم في انتظار الأغنية الثانية لأم كلثوم في حفلها.
Modernisation musicale, modernité des modes de diffusion. Oum Kalsoum inaugure en 1953 Radio Le Caire, radio nationale et plus important diffuseur du monde arabe.
ترجمت أحمد رامي وتلحين رياض السمرتي.
Elle a eu un genre d'intuition qu'on peut dire génial, quoi. Elle a compris tout de suite que la radio allait changer la vie des gens et être un outil de propagande formidable. Elle connaissait les siens, que la radio, qui était un outil pas très cher, allait rentrer dans toutes les maisons et que tout le monde allait vivre avec une radio. Et après, les gens, les gouvernants se sont servis ou l'ont utilisé pour dire on prend un rendez-vous avec vous. Donc, ces concerts étaient retransmis à la radio. Et ça, dans tout le monde arabe. Donc, en fait, quand elle chantait, le monde arabe était en prière ou à l'unisson ou en transe autour de ça. Pareil pour le cinéma.
Amir Ramsès.
Bon, il faut aussi noter que pour moi, de point de vue histoire du cinéma, les films faites pour Oum Kalsoum, qui n'était pas beaucoup d'ailleurs, on parle de 6 films dans 12 ans, tous faites pendant qu'elle était jeune, parce que pour moi, Oum Kalsoum est vraiment devenue la grande diva après la révolution, le coup militaire entre parenthèses de 52 qu'on appelle mystérieusement révolution en Égypte. Et bon, donc, disons qu'elle a fait tous ces films avant qu'elle devienne la grande diva. Elle en a fait 6. 5 portant le nom du personnage principal qu'elle interprétait. Et c'était plutôt toujours des trucs bédouins, tu vois, jouer le rôle d'une bédouine. Là, c'était un peu plus facile de cacher son physique ou de lui faire... Et je crois qu'à l'époque, on ne faisait pas des films parce qu'on a vu que Oum Kalsoum était une bonne actrice, et alors faisons lui des films. À l'époque, tous les chanteurs, chanteuses faisaient du film, c'était... d'une certaine manière, une façon de se diffuser. En faisant du cinéma, tu as les affiches, tu as les salles, tu as les entrées. Le peuple qui ne peut pas te voir en concert... Et qui même risque d'être assez pauvre pour avoir un phonographe à l'époque. Ils peuvent entrer à cinéma à moins qu'une piastre pour te voir en salle et pour te connaître. C'était le média de l'époque, tu vois. Et moi, je vois comment Kalsoum l'a vraiment utilisé tout simplement.
A été capable de produire au cours du XXe siècle un modèle culturel, que ce soit par son cinéma ou que ce soit par sa chanson, et un modèle qui a eu suffisamment d'intelligence et également de richesse de fabrication pour pouvoir être acceptable et apprécié d'un bout à l'autre du monde arabe, et que Oum Kalsoum a été l'un des vecteurs les plus sûrs de cette domination culturelle de l'Égypte. C'est un type de musique qui n'est étranger à l'oreille d'aucun arabe.
On est mort quand on parle plus de vous, quand on vous écoute plus, quand on vous évoque plus. Évidemment, elle fait partie du langage populaire, donc elle est toujours la voix. Et elle est aussi C'est-à-dire qu'elle est l'icône aujourd'hui. Donc la voix, évidemment, mais simplement l'icône en tant que référence aussi bien morale qu'esthétique. Donc les artistes, les grands artistes arabes ont repris, parce qu'en plus, elle avait un look, elle avait un style, quoi. Donc elle est très reconnaissable. Mais si, aussi les artistes de la rue. Il y a des tags d'Oum Kalsoum, il y a une rue Oum Kalsoum, et puis il y a des designers, et puis il y a des sculpteurs, et puis il y a des couturiers qui font des collections, qui font des tableaux, et qui l'appellent souvent par ses surnoms, ou la voix des Arabes, donc elle est vivante.
Oum Kalsoum, la voix des Arabes, par Lionel Quentin et Camille Renard. Avec l'écrivain Alaa El Aswani, le cinéaste Amir Ramsès, le chercheur Frédéric Lagrange, la biographe d'Oum Kalsoum, Isabelle Sayabodis. L'auteur et metteur en scène, Eddy Tillette de Clermont-Tonnerre. La comédienne, Lisa Pajon. Bibliographie et discographie sur le site internet de France Culture. Attaché de production, Laurence Jeunepin. Archivina, Sophie Gillery. Mixage, Jehan-Richard Dufour.
وانا ذنبي ايه والسير